Yes.
Excuse-moi, j'ai eu un bug sur l'enregistrement.
C'était l'idée de pouvoir. On répond à beaucoup de publics, on a beaucoup de dispositifs, tu l'as évoqué. C'était trois constats avec différents partenaires sur le territoire de la métropole bordelaise. C'était finalement comment répondre à des. Comment écouter des publics qui nous échappaient. On a aujourd'hui des publics qui nous échappent. Je prends un exemple, entre 30 et 40% des publics en mission locale, par exemple, ne reviennent pas après un premier accueil. Pourtant, on a énormément de publics, il y a beaucoup de publics en mission locale, à Pôle emploi, au PLI, mais il y a beaucoup de publics qui poussent la porte, là, ils poussent vraiment la porte, ils ont du mal, mais finalement, ils ne reviennent pas, ils ne recourent pas finalement à ce dispositif-là. Comment on fait pour écouter ces publics qui nous échappent? Ces publics qui ne rencontrent pas le dispositif et en fait ça ne matche pas. Voilà, y a une question de ça ne fonctionne pas entre ces deux choses-là. Donc ça, c'est écouter les publics qui sont laissés pour compte, qui sont non recourants effectivement au droit commun. Comment on fait aussi pour être plus simple, finalement, pour avoir un circuit court, plus court? On sait aussi par statistique que pour rentrer dans un dispositif, il faut un certain nombre d'étapes. Si c'est à cette étape, il y a un certain nombre de personnes qui s'arrêtent à la première, à la deuxième. Allez, je galère un peu, je vais jusqu'à la troisième. Bon, finalement, je m'arrête. Du coup, il y a un isolement de la personne. Comment on fait pour rendre plus court, pour rendre plus simple les dispositifs? Ça, c'est le deuxième constat qu'on fait sur le territoire, outre tout ce qu'on peut aussi voir au niveau, en effet, de la problématique du chômage sur les quartiers. Et après, tu parlais de ressourcerie. Est-ce que finalement, qu'est-ce qui se passe si on permet à chacun de mettre dans l'auberge espagnole sa ressource? Et comment on peut tricoter ensemble des parcours de formation, d'emploi, peu importe, des parcours, des projets. Et ça, c'est lié à des actions inspirantes qu'on a eues sur la métropole bordelaise, mais pas que. C'est des actions inspirantes telles que des chantiers formation, des actions un peu comme ça, du picking, qui ont fait que tout d'un coup, quand on voyait que les personnes participaient elles-mêmes aux actions, ça faisait à la fois des émotions fortes et à la fois quelque chose qui s'accélérait dans les parcours. Il y avait ce fameux mouvement dont tu parles. Donc ça, c'est ces trois constats. Et donc, si on essayait de la forge, au départ, c'est un programme où il n'y a pas de programme. C'est un programme non déterminé. On se dit, on va le déterminer avec les participants, on va voir comment ça peut fonctionner. Alors, ça bouscule, hein. Ce n'est pas franchement évident. Et on fait un programme sans programme, on demande à des collectivités de financer ce programme sans programme, et on le fait de différents points de vue. Dans la forge des compétences, il y a un écosystème d'acteurs sur différents champs d'intervention. On va avoir des entreprises, on va avoir du mouvement d'éducation populaire, le champ de l'insertion sociale et professionnelle, l'université, le champ de la santé mentale. Tous ces gens regroupés un peu dans l'écosystème et essayer de donner un peu toutes ces ressources aussi dont on parle, que chacun amène ses ressources. Donc, on se regarde un peu de différents points de vue. Donc, ça, c'est un peu le contexte sur lequel on s'est posé au départ. Et puis, moi, j'ai fait un pas de côté. J'ai embarqué dans mon histoire Sébastien, Samir aussi, qui ont bien voulu accompagner ce projet à partir de mars 2021. Et on a essayé de fabriquer, on s'est toujours dit, on ne fait jamais du traditionnel. Puisque du coup, sinon, ce n'est pas rigolo, quoi. Donc, on essaie d'avoir des lieux d'accompagnement et des lieux à la fois d'accompagnement et des modalités d'accompagnement non traditionnelles. Donc, des lieux, ben, on va aller, il y a eu beaucoup à ce moment-là, le aller vers. Du aller vers, on est resté avec, on chemine avec, on est resté sur place. Samir et Sébastien pourront illustrer. Et après, tu parlais de posture aussi, et bien évidemment que la posture, elle bouge dès lors qu'on est sur différents lieux. Après, je vais passer la main à Sébastien, Samir, mais on a trois lieux aujourd'hui identifiés. On a une espèce d'offre de service qui est fabriquée, qui a été fabriquée chemin faisant, dans la rue numérique. On avance doucement sur ce terrain-là. On accompagne à distance, on accompagne dans la rue, la vraie rue. Avec des balades professionnelles, on teste, on éprouve, on accompagne à domicile, On fait du porte-à-porte et je crois que là, il y a un vrai enjeu aujourd'hui. Sébastien dirait c'est un outil puissant, il va l'expliquer. Et après, on accompagne effectivement dans ce qu'on appelle un espace partagé, un lieu avec des murs. Voilà. Et à l'intérieur, on fabrique des projets, on voit ce que ça donne. Voilà, je laisse si tu veux bien, Sébastien, illustrer avec Samir un peu ces trois pendants sur lesquels on est aujourd'hui et qu'on éprouve.
Oui, je veux bien.
Merci bonjour. Sébastien, c'est super.
Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, je suis Sébastien Roussel. Donc, j'occupe la fonction de médiateur développeur. Donc, une nouvelle fonction pour tenter de trouver de nouvelles pratiques d'accompagnement. Donc, ça va avec. Je pense qu'on essaie de bouger un petit peu partout, en équipe, sur le terrain, sur la fonction. Je vais essayer de transmettre, en fait, par exemple, à partir d'une journée type, sachant qu'aujourd'hui, on a une journée type qui est assez structurée, mais qui se permet d'être suffisamment souple pour continuer à évoluer, puisqu'on est dans de l'expérimentation. Et ça, c'est important parce que ça nous permet d'ajuster au fur et à mesure de ce qu'on entend, de ce qu'on ressent. Des personnes que l'on rencontre, ça peut être les participants, ça peut être aussi les partenaires, les opportunités, les limites, tout ça, ça crée une matière qui nous permet de faire évoluer le projet au fur et à mesure. On a passé un certain temps à faire évoluer cette matière et là, c'est quelque chose quand même aujourd'hui de plus structuré. Effectivement, on fait beaucoup d'aller-vers, ça représente l'essentiel de notre travail, c'est aller vers les publics, aller chercher les publics qui restent chez eux, qui sont isolés, qui sont démobilisés, qui sont avec eux-mêmes. On tente d'aller leur proposer en fait un début d'échange et de construire en fait un lien, juste un lien au départ. Et pour illustrer ça, je vais prendre le porte-à-porte. C'est quelque chose qu'on a expérimenté. C'est un outil effectivement qui est assez puissant, qui n'est pas facile parce que ça peut déranger notre posture dans le principe de est-ce que je ne vais pas déranger les personnes? Est-ce que ce n'est pas intrusif? Donc il y a une manière de faire respectueuse qui se ressent tout de suite quand on va frapper à la porte de quelqu'un. En tout cas, ce qu'on ressent tout de suite, c'est un peu quand on frappe à une porte, c'est l'attente de l'inattendu. Qui va ouvrir? On entend la serrure et puis là, on a la porte qui s'ouvre et on découvre quelqu'un autant que la personne nous découvre et on commence à fabriquer en proposant tout simplement une discussion, savoir est-ce que tout va bien. Moi, je m'appelle Sébastien, je suis avec mon collègue Samir. Et on vient juste en fait savoir si tout va bien, s'il y a besoin d'aide sur de l'accompagnement en démarche. En général, ça fonctionne vraiment très très bien. Ça crée de la surprise parce que les gens n'ont pas l'habitude en fait qu'on vienne vers eux tout simplement. Ils ont l'habitude de plutôt aller dans une structure. Donc là, on va directement vers eux. Donc il y a de la surprise, il y a de la réflexion, on le voit. Et puis tout d'un coup, il se passe quelque chose, une relation se crée assez rapidement. Je pense qu'aujourd'hui, et comme hier, mais peut-être encore plus aujourd'hui, les gens ont envie de parler, ont besoin de parler et ont besoin de construire quelque chose avec d'autres personnes. Donc, juste pour éclairer, en fait, au départ, on était vraiment parti sur de l'aller-vers sur les territoires. Aujourd'hui, on va sur de l'aller-vers. Et on commence un accompagnement. À partir de là, on est sur l'accompagnement à domicile, en fait. On n'est pas encore rentré dans le domicile, mais ça commence sur le pas de la porte. Et pour prendre une journée type, un mardi, on va être sur un territoire. Par exemple, je vais parler de Koutra. On va être sur un territoire. On va frapper à une porte. On va rencontrer une personne. Avec cette personne, on va tisser un lien. Parce qu'elle a un besoin, une demande. Et puis, on va discuter pendant 10, 20 minutes, 30 minutes. On va échanger sur des besoins, mais aussi sur voilà, comment ça va, comment ça se passe. Voilà, on va s'adapter aussi bien sûr à ce que la personne nous dit. Et puis on va laisser la porte se refermer et on va revenir le lendemain. Et le lendemain, la porte va se rouvrir et souvent, on commence déjà à être accueilli en fait chez la personne. Et là, se crée presque, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, une relation sensorielle puisqu'on arrive directement en fait chez la personne. Et c'est quelque chose de très intéressant parce que cette relation qui se crée là directement, ça renforce en fait ce lien de confiance qui a déjà débuté la veille. On a cet outil du porte-à-porte. Peut-être, je ne sais pas si Samir est... Je ne sais pas, je cherche dans les...
Ouais.
Peut-être que tu as envie d'expliquer d'autres outils ou...
Non, après, pour commencer, donc Samir, j'occupe aussi le poste de médiateur développeur pour l'inclusion sur le projet La Forge des compétences. Pour aller dans le sens de ce que tu dis, Sébastien, après, je voulais aussi apprécier que vous pouvez aussi interagir avec nous. N'hésitez pas à poser des questions ou à compléter ou développer des réflexions sur lesquelles ben, nous, on est en train de... sur ce qu'on est en train de dire. Donc, n'hésitez pas.
Oui, t'inquiète pas, Samir. On va vous bombarder de questions après. Là. Mais on vous laisse peut-être finir. Et puis, parallèlement... Marilène, et voilà, on essaye de répondre au chat en même temps. Vas-y, continue.
Ok, merci. Donc, du coup, ce que disait Sébastien dans ce sens-là, c'est là, souvent on parle d'accompagnement à partir du moment où il y a un projet. Et souvent, pour poursuivre l'idée du porte-à-porte, c'est d'installer une relation de confiance assez rapidement, de montrer que voilà, on est surtout là aussi pour écouter et pas spécialement être dans la production de quelque chose. La production qui se crée, c'est surtout la confiance et de faire connaissance, rencontrer l'autre. Et puis, au fil de l'eau, c'est là où il y a des besoins, des envies, des projets qui naissent. Comme disait Sébastien, surtout dans une époque où on a perdu ce sens où on choisit, on est plus dans l'attente de se dire bon, tu viens jusqu'à chez moi, mais qu'est-ce que tu me proposes? Pourquoi tu toques chez moi, entre guillemets? Et donc, on est plus dans cette culture de se dire que on vient t'écouter et à partir de là, à partir de cette rencontre, on va donc t'accompagner selon ton rythme, selon si tes besoins. Là, on est amené au départ à juste rencontrer l'autre, mais aussi à créer aussi des conditions sur lesquelles l'autre va pouvoir être à l'aise et se dire, bon, là, je suis assez confiant, j'ai un cadre sur lequel... je vous invite, parce qu'on aussi amène à être les habitants nous invitent parfois aussi à sur un espace qui leur convient, que ce soit à domicile ou que ce soit lors d'une balade ou autour d'une activité, ou, pour citer l'activité qu'on a pu accompagner et mettre en place avec quelques participants. C'était un temps où on a joué au foot. Donc, c'est un lieu sur lequel, en fait, des personnes se sont senties à l'aise. Donc, ça a été le prétexte aussi d'aller à la rencontre par le biais d'une activité. Et donc, poursuivre l'accompagnement avec les participants.
Pour répondre à la question que je vois, on se présente en fait au nom de... En fait, on se présente en tant que personne. Ce qu'on a ressenti, c'est que Le plus important, c'est tout de suite de bah, « Bonjour, je m'appelle Sébastien, je suis avec mon collègue Samir. On travaille pour un projet qui s'appelle La Forge des compétences et qui propose d'aller directement chez les gens pour leur demander si tout va bien. » Et déjà, en fait, y a, puisque tu parlais de ça tout à l'heure, André, déjà, ça crée un mouvement. Ça crée un mouvement surprenant, c'est ce que je disais. Et ce mouvement-là, en fait, on le poursuit soit dans un accompagnement à domicile, en fonction des personnes, soit on les invite avec un autre outil à aller se balader. En fait, les outils qu'on utilise, ils sont utilisés en fonction des personnes qu'on rencontre. Par exemple, à Koutra, il y a une personne qu'on a rencontrée qui s'appelle Bernadette. Et Bernadette, en fait, quand elle a ouvert la porte, en fait, rapidement, elle nous a expliqué, bon, je synthétise, qu'elle avait besoin de travailler 2-3 heures, 2-3 heures, 2-3 heures par semaine. Elle voulait faire du ménage. Très bien. Bon, on se rend compte, en fait, rapidement, qu'elle veut travailler 2-3 heures par semaine, mais qu'elle ne sait pas très bien s'orienter. Voilà. Donc, elle ne peut pas trop sortir de chez elle parce que 100 mètres, 200 mètres de sa maison et elle ne sait plus trop se repérer. Et puis, en plus, son compagnon ne veut pas en fait, qu'elle donne son téléphone parce qu'il craint en fait, qu'elle fasse de mauvaises rencontres. Donc, bon, ok, très bien. Donc, on lui propose, en fait, on lui dit, bon, bah, très bien, tu ne peux pas mettre ton numéro de téléphone, peut-être que tu peux mettre celui de ton compagnon et puis nous, on peut t'accompagner sur ton environnement pour aller déposer des petites annonces directement dans ton voisinage. Je dis tu et en vérité, je ne tutoie pas. Donc, bon, donc je suis sur le vouvoiement. Mais ce qui est très intéressant, en fait, c'est que à partir de là, elle nous évoque ses freins. Donc, le compagnon n'a pas de téléphone, elle ne peut pas s'orienter, etc., etc. Et le lendemain, en fait, on revient et le porte-à-porte a déclenché une discussion avec son compagnon. Son compagnon lui dit, mais non, pas du tout, mets ton téléphone, c'est très bien. Y a aucun souci, je te laisse gérer. Et puis, c'est très bien aussi la question d'aller poser des petites annonces un petit peu partout. Bon. Donc, des freins sont déjà levés. Une discussion s'est créée entre elle et puis son compagnon. Et puis, une semaine après, je rappelle Bernadette pour savoir comment ça va, où est-ce qu'elle en est. Et là, elle me dit, bah, là, c'est mon fils. Mon fils ne veut pas que je travaille parce que ça va me coûter trop cher en impôts. Je vais perdre l'AAH. Alors, je lui dis, mais alors, on se renseigne. Je lui dis qu'elle peut travailler quand même 6 mois sans perdre l'AAH et puis que 2-3 heures par semaine, je peux quand même lui garantir qu'à mon avis, elle ne paiera pas d'impôts. Et donc, je vérifie à nouveau son besoin. Est-ce que son besoin, c'est de travailler? Et elle me dit oui, donc on fait le tri, on lui dit bon, donc il y a le besoin de votre fils et puis le vôtre, Bernadette. Et encore une fois, ça redéclenche une discussion avec son fils. Et ça met à plat, en fait. Et le fils dit, bon, bah, d'accord, effectivement. C'est en ça que je dis que, alors, le porte-à-porte, c'est un outil puissant parce que ça nous permet de rencontrer des personnes assez facilement, assez rapidement et de créer un lien de confiance. Mais j'ai l'impression que, parce que ce n'est pas le seul exemple, que ça met rapidement en mouvement les personnes qu'on rencontre. Il y a quelque chose de... Peut-être c'est l'inattendu, en fait, d'avoir deux personnes qui arrivent devant une porte et qui demandent, en fait, si tout va bien. Ça crée un mouvement chez la personne. Donc c'était intéressant, cette question de mouvement, parce que ce n'est pas forcément le mouvement extérieur, même si on l'utilise. Avec Bernadette, on va aller déposer des petites annonces, on va aller... se promener. Et puis Samir proposait à Bernadette aussi, ben, peut-être que comme tu as du mal à t'orienter, on pourrait faire des chemins régulièrement ensemble, 2-3 fois pour que tu t'habitues. Donc voilà, on se met en mouvement avec elle. On sent bien juste que derrière ça, il y a cette chance aussi d'être sur du temps long, enfin, en tout cas sur de l'expérimentation, et que ce type d'accompagnement nécessite du temps long.
Ouais, mais c'est là où le lieu, quand on parlait aussi du lieu où on commence à créer du lien, c'était ça commence à domicile. Et là, c'est qu'on on va vers, on sort de ce lieu aussi d'un peu de la zone de confort aussi, de se dire, bon, tu es chez toi, y a la confiance qui s'est installée. Toi aussi, donc du coup, tu t'autorises aussi à questionner, que ce soit ton mari ou ton entourage, ta famille, pour essayer aussi de trouver des solutions, de dire que j'ai mon mot à dire et j'ai des envies. Donc, petit à petit, en fait, c'est que le mouvement se crée. Il y a un dialogue aussi qui se met en place. Donc, la plupart, enfin, notamment Bernadette aussi, exprime aussi en fait son point de vue. Parce qu'au départ, pour prendre peut-être un autre exemple d'une personne qui est tout à la maison, qui ne s'exprimait pas du tout, c'est un jeune en fait qui vient d'arriver en fait sur la région. Quand on l'a rencontré, il se disait, voilà, je suis à la maison, je m'occupe que de ma fille et puis j'ai pas d'autres activités. Et de cette reconnaissance, de dire que voilà, nous on vient jusqu'à chez toi, mais tu as ce droit, ce privilège aussi de pouvoir sortir, aller dehors, découvrir peut-être autre chose, te balader tout simplement. Souvent en fait, c'est que cette personne-là disait, mais je connais déjà tout en fait, j'ai déjà fait le tour du quartier. Et puis, ça m'avance à rien. Je suis à la maison, ça me suffit. Et petit à petit, en fait, le fait d'échanger et d'amener aussi la personne aussi à prendre confiance et se dire, bon, je vais m'autoriser pour aller rencontrer d'autres personnes. Donc, le prétexte était, je vais aller faire ma carte d'identité. Donc, ce sont des choses sur lesquelles on pense. On se dit, bon, c'est naturel, c'est assez simple. Et pourtant, cette personne nous verbalisait de plus en plus, en fait, ses freins, où il nous disait, mais moi, je ne sais pas comment faire. J'ai du mal à envoyer un mail, j'ai du mal à envoyer un... Et donc, à partir de là, le fait de se dire, bon, je ne sais pas envoyer un mail, mais tu sais envoyer un texto. Donc, on essayait aussi petit à petit de se dire, bon, tu sais déjà faire ça, comment est-ce qu'on peut aller plus loin? Donc, en se servant en fait des exemples que la personne partage avec nous, on essaie de s'appuyer là-dessus en nous disant, bon, OK, là maintenant, tu as trouvé, on commence à dessiner quelque chose, allons un peu plus loin. Est-ce qu'il faut prendre rendez-vous pour donc pouvoir faire ta carte d'identité? Des fois, en fait, les personnes, en tout cas, cette personne nous disait, mais même pour décrocher un téléphone, en fait, je ne suis pas à l'aise, je ne sais pas quoi dire. Donc, le fait aussi de prendre ce temps, comme disait Sébastien, de faire connaissance et de dire que tu n'es pas tout seul. Et puis, on a le droit de se tromper, mais ose. Ose, et puis on ajustera au fur et à mesure.
Je me permets de préciser par rapport à qui on est... Et je reviendrai sur ce que dit Samir, qui on est. J'ai juste oublié, je m'excuse, auprès de l'organisme Accessible. On est porté par un organisme privé qui s'appelle Accessible. Et c'est un consortium d'acteurs en fait, qui a monté un projet, qui a monté ce projet-là. Donc moi, je suis coordinatrice de ce projet pour le compte d'Accessible, AFEC et... Axis, qui sont sur la place métropolitaine de Bordeaux et qui travaillent l'orientation professionnelle avec des consultants dans les murs. Et du coup, ils voulaient faire un pas de côté aussi, voir un peu comment ça se passait hors les murs. Et dans ce consortium, on va aussi avoir Jérôme Guillet, qui fait partie de l'éducation populaire. On va avoir aussi Marie-Hélène de l'Université de Tours. Enfin, donc, on a tout un consortium d'acteurs. Et donc, quand on se présente, on est un projet, on est un collectif. L'idée, c'est de monter une association derrière. Voilà. Donc, c'est un collectif associatif, la forge des compétences. Et pour revenir sur ce que dit Samir, en effet, il y a comment passer de l'isolement et tranquillement, hop, 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 c'est tellement facile à venir vers le collectif. Donc c'est, on est sur des quartiers, il y a une déambulation, de la discussion, on arrive à un entretien un peu plus professionnel, avec des discussions avec des Bernadettes d'une cinquantaine d'années, un jeune Kirk qui est plutôt dans la trentaine. Je voyais la question, quel est le public cible? On est sur du 16, 45 ans, voire 50 ans. Tous les publics qui ont besoin d'un accompagnement et qui ont besoin de revenir vers le droit commun, on est... Vous savez, le truc entre le domicile et le service public, quoi, le truc au milieu là, qui fait la passerelle. Donc c'est un peu l'idée aussi, voilà, de passer de l'isolement de chez soi, tranquillement, aller vers la balade professionnelle et amener, accompagner, être à côté de ces personnes-là et aller vers du collectif et on espère vers le service public de l'insertion ou de l'emploi, quoi. Donc c'est vraiment ce cheminement-là qu'on espère qu'on nous laisse le temps de faire, en fait. Aussi. Il y a la question du temps qui est hyper important, quoi.
Et puis c'est intéressant parce que de l'individuel au collectif, et des fois, ce n'est pas forcément. Alors, il y a ce collectif-là qui se crée là où on est domicilié au bassin à flot, ce collectif qui va faire fonctionner la pérédance, l'entraide, la solidarité, mais. Il y a aussi de l'individuel au collectif. Je pense à des personnes qu'on accompagne vers des structures existantes sur le territoire et qui commencent du coup à... Nous, on a commencé à rompre cet isolement avec ce travail d'orientation vers des structures existantes. Et il y a un vrai succès sur ces orientations-là puisque quand on revient, effectivement, les personnes se sont réellement mis en mouvement alors que ça faisait un moment en fait qu'elle restait chez elle. Donc, c'est très intéressant de voir que sur un pas de porte et sur juste un ou deux rendez-vous chez la personne, ça peut déclencher vraiment des mouvements très importants, que ce soit sur un collectif que nous, on essaye de constituer au bassin à flot, mais aussi des collectifs existants. Et puis, je voulais revenir là sur le... Je disais la question sur le... Il y a 25 ans, les assistantes sociales de quartier faisaient la même chose. Le porte-à-porte, c'est sûr, on ne l'a pas inventé. Je suis entièrement d'accord. J'ai le sentiment que c'est vrai que c'est ce que je disais. En fait, on est sur d'expérimentation, on est financé sur de l'ingénierie. Donc, on a cette chance d'être sur du temps long. C'est vrai qu'on a... Je pense qu'on a perdu en qualité parce qu'on a voulu rationaliser en fait les accompagnements et cette qualité elle s'est perdue au détriment de la rationalisation. En fait, ce qu'on fait en fait c'est de base en fait c'est juste que tout le monde sait faire. C'est juste on s'intéresse aux gens et les gens ils le sentent et ils se créent quelque chose en fait. À partir de là, bien sûr, après il y a une méthodologie pour accompagner, mais enfin voilà, c'est quand même un truc. Enfin,
voilà. Et la question des sujets, je vois une question sur les sujets de violence ou de problèmes avec son employeur. Je crois que tous les sujets sont abordés finalement. Je rejoins une jeune fille qui a une des problématiques de violence conjugale. L'idée, c'est de pouvoir aussi orienter correctement ou l'accompagner correctement vers voilà, lui donner les conditions nécessaires pour sortir de chez elle et simplement aller vers la structure qui est appropriée à cette problématique-là. Le coût de l'employeur qui, voilà, ça a déjà été vécu par des collègues à domicile. Donc après, c'est surtout qu'est-ce qu'on en fait. Donc on s'est mis en place, par exemple, des commissions de situation, parce que à l'intérieur de notre fabrique de production, on se met en place une commission de situation, déjà pour libérer un peu toutes les situations que Sébastien, Samir, il y a une troisième médiatrice, Alice, qui est présente aussi sur le projet depuis quelques temps, où on délibère un peu sur les situations. Voilà. C'est quoi nos limites? C'est quoi nos limites? Enfin, il y a une porte qui s'est ouverte. Derrière, il y avait un monsieur qui était retraité avec de vastes problématiques. C'est de la discussion date de ce matin, donc qu'est-ce qu'on en fait? Comment on pose les limites à cette personne-là? Et le projet de la forge, ce n'est pas le Père Noël, en fait. Donc c'est aussi ça. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça et comment on est transparent avec les personnes? Où est-ce qu'on peut aller? Où est-ce qu'on ne peut pas aller? Voilà, on parlait de la problématique du logement. Il y a des personnes qui cherchent des logements, mais nous, on n'a pas de logement dans la poche. Donc, comment on fait pour créer les conditions favorables aussi pour que la personne puisse avoir les bonnes démarches pour aller chercher les logements. Enfin, voilà, vous connaissez tout ça dans les structures d'accompagnement. Mais voilà, c'est le temps.
Juste par rapport à la réflexion de Sébastien, il me semble que sur la question d'il y a 25 ans et du porte-à-porte, je pense qu'on a délégué à des dispositifs prédéterminés avec des diagnostics et de la prescription. Et au fond, alors à la fois pour des questions de rationalisation, mais parce qu'on peut-être on percevait pas l'utilité de ça. Et en fait, le non-recours au droit, il vient juste du fait que les gens y rencontrent plus personne, en fait. Et la question de la rencontre que vous mettez en œuvre et la fonction de passeur que vous avez, c'est difficile de lui déterminer des limites, puisque les limites sont liées
à la situation qu'on a devant soi, quoi.
Et il me semble que c'est garder cette dimension élastique et réflexive, en fait, pour l'ajuster au fur et à mesure, c'est un des enjeux de réussite, puisque si je reprends ce que vous dites, c'est vous êtes quand même à essayer de mettre en œuvre les conditions favorables pour que ça puisse avancer, quoi. C'est vraiment ça. Et donc, du coup, passer d'un isolement à une logique d'actorisation, d'agentivité, que les gens se mettent à faire quelque chose eux-mêmes. Et donc, du coup, changer de point de vue en écoutant Sébastien, il y a quelque chose de vraiment intéressant sur le fait que vous créez des espaces de transaction des personnes avec elles-mêmes, quoi. C'est comme ça que je l'appelle, moi. C'est-à-dire, en fait, ils se remettent à réfléchir aux croyances qu'ils ont sur eux-mêmes. Et donc, du coup, peut-être que ça leur permet d'avancer. Je trouve que ça, c'est vraiment intéressant dans la question du porte-à-porte et de l'intimité sur lesquelles vous allez. C'est que sans doute, ça amène les personnes à réfléchir aux limites qu'ils se donnent eux-mêmes, en fait. Et que peut-être ça ouvre des possibles, quoi. En tout cas, c'est intéressant que le porte-à-porte produise ça. Alors moi, j'avais une question sur la question de la pérédance, c'est-à-dire comment vous créez des possibilités d'entraide. Est-ce que vous travaillez cette question-là pour l'instant? Comment voilà. C'est aussi un des sujets d'accompagner autrement.
Le premier, par rapport à ça, la première réflexion, c'était justement la création des métiers de médiateur, développeur. Aujourd'hui, ça s'appelle comme ça, hein, mais il y avait la question de médiation dans la facilitation, de ne pas être dans de l'enseignement, en fait, hein, je vais être plus simple, de ne pas être dans l'enseignement sachant sachez, mais non sachant, mais être dans de la facilitation de communication. Et donc, l'idée de la paire aidance, elle est venue aussi, au départ, moi, c'était sur les groupements d'entraide mutuelle, hein, qui existent dans le champ de santé mentale. Et il y avait des métiers comme ça. J'ai un peu dupliqué aussi le métier de père santé père, je crois, les contrats santé père. Il y a vraiment des contrats liés à ces métiers-là. Et la question de la facilitation était bien là, et la question de développement, bien sûr, parce qu'on est dans un projet de développement. Donc, elle est déjà dans le métier, la père aidance. On est loin du compte de faire de la père aidance, hein, bien sûr, hein. Mais c'est de ressortir effectivement le vécu expérientiel de chaque personne. Ça, c'est plus dans le tiers-lieu qu'on va le retrouver, dans ce qu'on a nommé aujourd'hui. On a des ateliers de fabrication, de fabrique de solutions, où là, il y a plus de jeunes, d'ailleurs. Et là, chacun donne ses ressources. Finalement, il y a quelques... Je vais prendre un exemple, quelqu'un qui cherche à travailler l'anglais, on se dit, mais toi, tu ne peux pas lui faire des cours d'anglais. Enfin, voilà, c'est aussi... c'est un peu à la fois la ressource et à la fois, moi, j'ai vécu ça, je sais en parler. Mais c'est notre idée, on avance sur ça. Mmh. Pour l'instant, ce n'est pas, voilà, c'est pas abouti, bien sûr. Hein, mais...
Et puis, des fois, ça s'impose à... Pardon, Marie.
Ça, c'est vraiment une démarche initiale qu'on ne veut surtout pas galvauder. On veut pas, voilà, on veut qu'elle soit authentique. Voilà. J'entendais Agnès Saïdé l'autre jour sur la conférence parler de pédagogie, quoi. Donc voilà, on est un peu là-dedans, quoi. Mmh. On essaye, on s'essaye. Mmh.
La pérédance, des fois, elle s'impose à nous, dans le sens où nous aussi, on rationalise nos accompagnements. Et c'est tant mieux, parce que à force de faire du porte-à-porte, on a des personnes qui nous expriment qu'elles n'ont aucun besoin, mais on arrive quand même à discuter et on arrive à constituer un réseau mémoriel. On se dit, tiens, il y a telle personne là, et ça nous permet aussi de dire, bah tiens, je reprends l'exemple de Bernadette, pour faire ta petite annonce. Tu peux peut-être demander à ta voisine de maison, chez qui tu vas de temps en temps. Ça t'évitera. Nous, on va sur les quartiers une fois toutes les 3 semaines. On a aujourd'hui trois quartiers. Donc, on ne laisse pas attendre en fait les personnes. Donc, ça s'impose à nous. On lui dit, bah, tiens, tu pourrais aller là-bas pour faire ta petite annonce plutôt que d'attendre qu'on revienne dans 3 semaines. Ça ira plus vite. Voilà.
Là, souvent, les personnes que l'on rencontre aussi sont dans cette attente et d'avoir, je pense que ça correspond aussi à la société actuelle, le fait de vouloir tout et tout de suite, entre guillemets, le fait d'aller vite, se dire que je suis dans le besoin et j'ai besoin d'avancer. Donc, c'est le fait d'être en contact permanent aussi. Ça permet aussi à la personne de se dire ben, j'ai une dynamique, j'ai des personnes en qui je peux me tourner assez facilement, que ce soit ben, les voisins dont j'ai confiance, mais ils peuvent aussi me contacter. Et nous, ben, on a cette chance, on va dire, de pouvoir être à l'écoute assez rapidement des personnes.
Sur les publics que l'on rencontre, il y a vraiment, enfin, avec Samir, on a croisé des personnes en burn-out, des personnes victimes de violences conjugales, des personnes qui ont des problèmes avec la justice. C'est vrai que les personnes qui sont à leur domicile, elles sont souvent enfermées avant tout par leur situation. Et elles expriment la plupart du temps quelque chose qui s'est délité en fait au fur et à mesure. C'est la relation sociale en fait au sein même de l'immeuble, au sein même du village, du quartier. Quelque chose qui a disparu en fait, des choses, je reviens sur cette expression, des choses de base, en fait, des petites mamies qui tricotent en bas de l'immeuble, à qui on pouvait parler, un voisin qui pouvait nous aider à monter les courses sans nous demander quelque chose en échange. Il y a quelque chose qui s'est perdu et qu'on met toujours sur le dos du Covid, mais je pense que ça s'est fait bien avant ça en fait, et que ça fait un moment en fait que les gens ont perdu en fait quelque chose dans la relation à l'autre, et sans jugement aucun, parce que chacun et même nous sommes avec nos propres limites, mais ce qu'on entend aussi par rapport à d'autres organismes que je ne citerai pas, et c'est aussi cette difficulté quand on est avec quand on a des besoins très importants d'aller taper à la porte d'un organisme, et on nous a souvent fait ce retour d'être considéré en fait juste comme un numéro de dossier, et c'est ça aussi que le porte-à-porte, c'est là où le porte-à-porte fait la différence en fait, c'est qu'il y a une relation humaine qui se crée tout de suite. On n'est pas sur un dossier, un numéro, et aussi un numéro, et aussi de ne pas avoir tout le temps les mêmes personnes en fait en ligne. Mais là, on atteint les limites aussi de la société dans laquelle on vit, en fait, dans laquelle on évolue, en fait, hein, et cette rationalisation. Donc, c'est aussi ça. C'est pour ça que j'insiste bien. Il n'y a pas de jugement, parce que j'ai vraiment le sentiment qu'on se complète tous les uns et les autres. Voilà. Tous les gilets jaunes, depuis quand cette action a démarré. En tout cas, il y a d'autres mouvements, c'est celui du co-working ou balade solution. C'est vraiment très intéressant aussi, parce qu'effectivement, tu en parlais aussi tout à l'heure, l'idée de ne plus être face à face, mais à côté, d'aller se promener, parce que là, on est sur… pareil, on n'est pas forcé d'être sur la relation, enfin, la relation avec la personne ne démarre pas de son besoin, mais juste d'une balade, d'un échange. Et ça aussi, c'est vraiment un outil, c'est un outil intéressant, parce qu'on peut passer par « fais-moi découvrir ton territoire » ou « amène quelqu'un avec toi, comme ça on ira se balader à plusieurs ». Il y a quelque chose de l'ordre de l'agilité, de la souplesse et pareil, de la relation humaine avant tout. Mais voilà, le temps long.
Je me permets de partager l'écran pour effectivement répondre à la question de l'offre de service. Est-ce qu'on peut faire aussi par téléphone? Je vais juste essayer, si ça ne vous embête pas.
Non, mais ça on peut continuer voilà. À parler.
Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si c'est partagé là ou pas.
Tu vas pouvoir appuyer sur partager l'écran parce que là.
Ouais, mais ça y est, a priori.
Ben voilà.
Ouais, c'est bon.
C'est bon. Donc voilà, là, c'est la forge des compétences, l'atelier des solutions, mais sur trois lieux différents, effectivement. Donc par moment, par endroit, de l'entraide pour construire un projet. Donc on a un atelier à distance, un atelier, alors, ce qu'on appelle un atelier, des solutions à distance, des balades solutions, des coworking hein, sur les quartiers. Et dans la forge, donc on a ce fameux tiers-lieu qui existe. Donc et après, on va. Ça c'est une info qu'on donne un peu sur notre réseau Facebook, auprès des commerces. Donc voilà, la balade solution, c'est un quartier un mercredi à 15h. Les gens savent qu'il y a une balade solution. Les solutions à distance, il y a une question qui a été posée tout à l'heure, effectivement, il y a la possibilité de se téléphoner. Alors tous les jours, hein, de toute façon, il y a une possibilité, on a un groupe Messenger, voilà, on a fait participer aussi des jeunes de la garantie jeune qui ont été impliqués sur ce projet-là aussi pour contribuer au projet. Hein. Donc, on les a souvent au téléphone et on a des personnes directement au téléphone qui sont présentes, mais on a aussi la possibilité, Samir, Sébastien et Alice sont disponibles tous les mardis à 19h pour partager un accompagnement à distance. Et le dernier, c'est effectivement la fabrique des solutions. On est en alternance à 14h, à 17h. On va en fabriquer aussi le samedi matin. On va être sur les marchés aussi. Ça a déjà été fait en d'autres temps. Et on va proposer des porteurs de parole tous les mois sur la place Saint-Projet. C'est la place de Bordeaux aujourd'hui qui rassemble différentes générations. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de passants. Et donc, l'idée de faire un porteur de parole là, ça marche toujours bien parce que ça attire des populations. Et ça donne un peu de débat. Quoi. Donc voilà, c'est une offre de service un peu qui est aujourd'hui celle-ci.
Porteur de parole, tu peux expliciter plus, je pense. Que
peut-être Samir, sur le porteur de parole. Je vais essayer.
Porteur de parole, ça c'est plus un outil qui va nous amener à rencontrer l'autre sans vraiment l'interpeller. C'est souvent l'autre qui nous interpelle. Plus basé sur une question qui fait sens, qui amène à la personne à se rencontrer. Ça peut être du type qu'est-ce qui
a marqué votre vie
Qu'est-ce qui a marqué votre vie à quoi rêviez-vous quand vous aviez 15 ans? Donc, c'est des questions.
Mais c'est sur des grands panneaux écrits comme ça, là. C'est avec des craies blanches, là. C'est énorme.
Donc, on pose la question, on l'écrit sur un grand panneau comme du Mariden, et après, on déambule. Et là, en fait, souvent, ben, on est interpellé, ou il y a des personnes qui souhaitent répondre, ou il y a une réflexion. Et puis après, ben, là, ça amène à la discussion, et là, il y a des récits, des envies qui naissent la plupart du temps. Et puis on note en fait une pépite lors de notre échange sur lesquelles ben, on rassemble l'ensemble des pépites qu'on a sur ben, un lieu qui amène à la réflexion, à l'échange avec d'autres personnes. Donc il y a la question et les pépites aussi qui amènent à discuter, à rencontrer l'autre, tout simplement.
Et pour compléter, le porteur de parole, c'est une manière de réinvestir l'espace public, qui est aujourd'hui un espace de consommation ou de circulation uniquement. Et c'est une opportunité en fait, pour les participants qu'on amène en fait, place Saint-Projet, de se réinvestir aussi soi dans la capacité à dialoguer, à poser des questions, surtout pour des jeunes en fait, qui sont toujours placés par réflexe, sont toujours interpellés par des adultes. Là, c'est aux jeunes d'interpeller, en fait, d'interpeller les adultes. Donc, en fait, il y a du, voilà, il y a du, on le voit là, il y a de la circulation, des gens qui s'arrêtent et qui dialoguent. Et ceux qui participent s'offrent, en fait, cette possibilité de réinvestir, en fait, bah oui, ce qu'on appelle le pouvoir d'agir, en fait. Hein. Ça peut passer par ce type d'action. Ça peut passer par ce type d'action. Puis ça développe des pratiques communautaires. Je pense que sur le travail de solidarité, de coopération, de père aidance, c'est, tu parlais de ça aussi, André, tout à l'heure, c'est des outils qu'on va utiliser, comme par exemple profiter d'un atelier cuisine pour parler d'autre chose, mais finalement, quand même parler de toi, de moi, et puis qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, quelles solutions on peut trouver. Voilà, c'est un peu tout ça, en fait. C'est un mélange de tous ces outils qui nous amènent finalement à accompagner de manière différente, dans des lieux différents, dehors, à domicile, au tiers-lieu, au bassin à flot, place Saint-Projet avec des pancartes.
Et, le porteur de parole, il y a aussi, c'est quand on parle aussi de mouvement, souvent, on a la question et puis ce sont les passants qui viennent vers nous. Donc, ils font ce pas qui s'autorise aussi à venir échanger ou à tout simplement à répondre, à nous lancer juste une phrase et puis à continuer à marcher. Donc, il y a aussi ce mouvement aussi qui se crée où ce n'est pas le professionnel qui va vers les gens, mais c'est on essaie aussi de changer un peu la tendance. De dire, vous aussi, vous pouvez aussi venir vers nous. Nous, on fait l'effort de venir sur l'espace public, mais il y a souvent quand on dit le don contre don, ou c'est l'occasion en fait de se dire, j'ai fait un pas vers toi, tu pourras aussi venir vers moi. Donc, comment est-ce qu'on se rencontre et sur quels moyens, avec quels moyens tout simplement en nous appuyant sur une question qui fait écho et qu'on se rend compte souvent qu'on se reconnaît souvent sur des récits et pareil, on se sent un peu moins seul aussi, le fait de dire j'ai été écouté, en même temps il y a des gens aussi qui vont me dire et on continue de partager en fait notre vécu.
Ouais, c'est vrai que ça produit à la fois de la confiance en soi et de la confiance en l'autre. Tous ces outils là, je trouve que c'est vraiment le socle d'un accompagnement qui va être réussi en fait, puisque la base va être la confiance.
Juste si je peux me permettre, est-ce que vous avez, dans le porte-parole, est-ce que vous avez envisagé, est-ce que vous avez déjà commencé à travailler sur des approches plus narratives? C'est-à-dire qu'en regardant la place comme ça, là, j'imaginais tout à fait que les gens puissent raconter des histoires, qu'on puisse porter des histoires aussi, parce que j'ai vu ça beaucoup dans d'autres pays anglo-saxons, etc., où la question de la narrativité, en fait, c'est-à-dire un des moyens de reconnaissance pour les personnes aussi, c'est produire une histoire qui a du sens pour eux et qui peut intéresser les autres, quoi. Et je pense que les gens en difficulté, par exemple, c'est quelque chose qui peut être extrêmement mobilisateur. Donc, voilà, en vous regardant, je me disais que peut-être vous utilisez ce levier aussi. Hein.
On a la notion plutôt du livre vivant. On va travailler sur le livre vivant. Il y a des expériences, notamment au Danemark, sur ça. C'est vrai que ça navigue autour des réflexions, la question de la narration.
Je compte au livre vivant, hein, puisqu'il
y en a... Ouais, d'accord, mais voilà. Oui, mais on a l'ambition, effectivement, d'être un peu sur ce schéma-là de livre vivant. C'est hyper intéressant, mais bon, il faut se former quoi avant
la première. Oui, non, mais c'était juste...
C'est ça,
peut-être vous l'utilisiez et que
pour pas les... encore. Voilà, ça se dessine, voilà.
C'est la question de la narrativité pour les personnes en grande difficulté. On voit sur les personnes très âgées, par exemple, à quel point c'est mobilisateur pour eux. Donc,
je
disais que c'est... Voilà. Il y a des beaux projets autour de ces questions. Et en regardant le porteur de parole, je me dis, il y a sûrement quelque chose qui pourrait être Ouais, très bien, super.
Ouais.
Peut-être que si les collègues voilà, veulent intervenir directement, c'est juste pour pas voilà, pour leur permettre de causer, de parler directement. Donc faut pas hésiter, vous ouvrez le micro et puis vous réagissez. Hein. C'est vendredi soir, on est tranquille. Merci beaucoup, c'est magnifique. Voilà, ouais, c'est super, je suis ravi d'entendre tout ça.
Moi, j'avais envie de poser une question. Enfin, je trouve ça, merci beaucoup parce que vous nous donnez des choses aussi très concrètes qui permettent de comprendre des concepts. Et voilà, donc moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Sur la question du porte-à-porte et de la visite à domicile, ou je suis assez étonnée hein, que vous ayez autant de... Parce que, je ne sais pas, moi, j'ai l'image des témoins de Jéhovah, des gens qui n'ont pas envie de se faire emmerder chez eux. Et je me dis, il y a une sacrée compétence derrière ce simple geste d'aller frapper à une porte. Donc voilà, peut-être nous donner un peu des billes là-dessus, où c'est une question d'attitude, une question de... Bon, et puis en même temps, vous dites quand on trouve une porte fermée, on y retourne. Donc je me dis, mais mince, alors que c'est vachement harcelant, quoi. Enfin, voilà, donc j'avais envie de savoir un petit peu comment vous travaillez ça, enfin comment vous avez travaillé ça, parce que ça ne doit pas être simple, vraiment pas.
Je veux bien répondre sur la question de la gestuelle, de la posture finalement, parce qu'on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que en fait, alors c'est vrai, toutes les portes ne s'ouvrent pas. On a eu vraiment très rarement de l'hostilité. Ça a été très rare et on l'a respecté, on s'est effacé, hein, et c'est normal. On n'est pas si insistant que ça, mais j'y reviendrai après. Mais sur la posture, en tout cas, on n'est pas trop près de la porte. On est vraiment on est assez éloigné. Et c'est vrai que déjà de se présenter par nos prénoms, c'est quelque chose qui fonctionne. On a tendance à dire qu'on n'a rien à vendre rapidement parce que
les gens
font beaucoup démarcher, notamment pour l'énergie. Il y a des quartiers où clairement c'est affiché même sur la porte, hein, démarchage interdit, etc. Donc on se jauge avec Samir du regard, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas. Des fois, quand on voit trois fois démarchage, des fois même on quitte l'immeuble, en fait, on se dit bon, c'est pas la peine parce que ça va être agressif, quoi, alors que nous, c'est pas l'idée. Mais la gestuelle compte beaucoup. Bonjour, je suis avec mon collègue Samir, je m'appelle Sébastien, on n'a rien à vendre. On vient juste. Il faut aller tout de suite, en fait, faut pas tourner autour du pot. On vient juste vérifier que tout va bien, est-ce que vous avez des besoins particuliers en termes d'emploi, de formation. Voilà. On commence quelque chose d'assez rapide. Et la gestuelle, elle compte beaucoup, le sourire, la distance, vraiment la distance, et puis montrer qu'on est prêt à s'en aller au moment où la personne nous dit non. Et je pense que ça se ressent. Il y a une posture vraiment sincère, en fait. Quand on le fait, il y a vraiment...
Mais on la voit quand on... Enfin, même à l'écran, quand tu le fais, là. C'est-à-dire... si, c'est vrai. C'est vrai. Je veux dire, t'es pas... le fait d'être figé avec, je sais pas quoi, un cartable, ça ferait pas le même effet que la manière dont tu t'exprimes, là. Ouais.
Je pense que quand on y va avec sincérité, je dis pas qu'il y a des gens qui n'y vont pas avec sincérité, mais dans le sens où... Voilà, C'est sous-entendu, on ne veut pas vous déranger, excusez-nous, vraiment, c'est inhabituel, on le sait. Mais voilà, on vient juste voir si ça va. Et si vous avez 5 minutes pour discuter, c'est très bien. Sinon, bah voilà, tant pis, quoi, c'est pas grave. Ouais.
Merci.
Moi je me dis aussi dans cette question de bienveillance et de chance aussi. En tout cas, moi j'essaie de me le présenter comme ça en me disant que c'est votre chance. Nous, on n'a rien à vendre. Au contraire, on vient voir si vous avez des besoins. Et saisissez-la, quoi.
Après, c'est vrai qu'en fonction des immeubles, si on a vu qu'il y avait vraiment mauvaise pioche en termes d'aucune porte, on y retourne. Maintenant, il y a cette difficulté de savoir est-ce que la porte s'est pas ouverte parce qu'il y a personne, est-ce que c'est parce que la personne ne veut pas ouvrir. Bon, des fois on entend ça bouge, ça regarde, voilà. Donc effectivement, je pense qu'on s'est pas trop trompé, mais on évite effectivement de réinsister à des endroits où on sent que c'est plutôt mitigé, où on a senti, je sais pas, il y a une espèce de ouais d'intuition aussi. Voilà, ça n'a pas ouvert parce que les gens n'avaient pas envie, ou ça n'a pas ouvert parce que les gens n'étaient pas présents ce jour-là. Des fois, on a dû se tromper, je pense.
Ok, merci.
Et aussi la relation avec les bailleurs sociaux ou le concierge, qui est important dans ces questions-là. Oui. Parce que dans la discussion, est-ce que certaines donnent des personnes à aller voir? Je pense que si on est de connivence avec les concierges au fur et à mesure, c'est un projet qui est jeune. Hein. Donc c'est vrai que les porte-à-porte, ils ont démarré vraiment en juillet. En fait, avec l'expérience aussi que le confinement ou les débuts de confinement ou les couvre-feux, il n'y avait plus personne dans la rue. Notamment, il y avait plus de. On se rendait compte qu'il n'y avait plus de jeunes femmes non plus. En fait, sur certains quartiers, des bons quartiers populaires de Bordeaux, où les femmes n'étaient plus du tout dans l'espace public. Du coup, c'est vrai que ça a amené Sébastien Samir à se poser cette question de porte à porte. Et cette question de transaction, peut-être à aller voir au niveau des immeubles. Il y a certains concierges qui ont été rencontrés et du coup qui sont de connivence, en fait. Ben, je vais utiliser ce terme parce que c'est bien celui-là. Quoi. Donc, c'est de constat en constat, quoi.
Et moi, je vais donner mon avis sur la question. Est-ce qu'il vous arrive en fait d'avoir des personnes qui nous donnent d'autres noms? Alors, effectivement, avec Samir, quand la personne dit non, j'ai en gros, non, tout va bien, on demande dans votre entourage ou dans l'immeuble ou dans le quartier, est-ce que vous connaîtriez des gens qui potentiellement auraient besoin d'une petite visite? Et bah, majoritairement, c'est non, en fait. Et les gens ne connaissent pas bien leurs voisins, en fait. Les gens ne se connaissent plus, se connaissent plus. Je n'aime pas dire ça parce que c'est pas généralisé, mais en tout cas, là, le peu qu'on fait, enfin le peu, en tout cas, depuis qu'on fait, c'est vrai que les gens ne se connaissent pas trop. Et donc, moi, je ne connais pas mes voisins, je ne sais pas. Ou, Samir, peut-être que toi, tu as eu un autre ressenti.
Non, je te rejoins. Et nous, on se questionne surtout dans le sens, sur le sens où. Dans le sens où les personnes que l'on raconte, même s'ils ne sont pas dans le besoin, ce sont aussi des personnes ressources. Nous, en tout cas, on part dans cette idée de se dire que c'est votre territoire, votre maison, vous habitez dans un immeuble. Donc, on part dans l'idée que ces personnes-là connaissent mieux que nous l'environnement. Donc, on n'hésite pas non plus à faire appel à ces ressources.
Quand on avait travaillé sur le tiers-lieu politique de la ville à Concarneau, qui était juste le webinaire d'avant, un des constats qu'on avait fait, c'est effectivement la faible connaissance des publics entre eux. Ça nous avait beaucoup surpris, ça, qu'ils nous disaient eux-mêmes, en fait. Il y avait beaucoup d'isolement, en fait, beaucoup d'isolement. Et je trouve que ce qui est très intéressant dans le projet, là, c'est qu'on crée des petites ramifications, en fait, doucement, mais est-ce que... voilà, des réseaux de connivence, quoi. Voilà, c'est ça qui me paraît très intéressant.
Pour alimenter ça, le local de la Forge des compétences est à l'intérieur d'une résidence habitat jeune.
Oui, oui.
Et c'est vrai que il y a certains jeunes sont accompagnés par la Forge des compétences dans ce local, et une jeune fille nous disait qu'ils ne se connaissaient pas entre eux. Mmh. Bon, c'est une jeune résidence qui vient d'arriver. Mais néanmoins, ça passe, quoi. Ça passe, mais ça ne se connaît pas, quoi. Donc c'est vrai que ce volet-là, au sein d'une résidence, on est aussi à l'interstice de croisement de jeunes et de gens qui rentrent dans cette résidence jeune, mais qui ne sont pas jeunes. Enfin bon, il y a quelque chose de très sympa aussi à créer là. Ils ne se connaissent pas.
Je pense qu'on peut créer aussi des réseaux d'interressources et d'interconnaissances aussi qui vont avec. Hein.
Oui, c'est ce qu'on fait. On s'appuie sur le jeudi. on propose des fabriques de solutions pour développer en fait le réseau en fait des participants qui viennent. En résumé, on est dans une salle. C'est important aussi parce que en tant que professionnel, comment nous à ce moment-là on s'efface sur ces jeudis-là, j'y reviendrai, mais on propose aux participants donc en cercle en fait. S'ils le souhaitent, d'évoquer une situation personnelle, un besoin, une demande, un frein, enfin, voilà, une impasse, peu importe, et puis de faire en sorte que le groupe soit ressource pour cette personne. Donc, on part d'une situation individuelle et on fait jouer le collectif pour créer un plan d'action pour la personne. Et ça marche plutôt pas mal. Nous, en tant que professionnels, en fait, on s'efface, on prend un peu la posture de facilitateur, d'animateur, de relancer, de veiller au bon fonctionnement de ce temps-là. Mais le groupe devient rapidement autonome et ça fonctionne vraiment bien. J'en suis sûr qu'il y a même, on n'en est pas venu encore à débriefer avec les participants, mais je pense qu'il y a des participants qui, au départ, imaginent en fait ne pas être ressource pour les autres et qui le découvrent au moment en fait où ils vont commencer à entendre une autre qui dit « Ah, mais tu as pensé à faire ça ?» Et du coup, « Ah oui, c'est vrai. » Enfin voilà, ça, c'est pareil, ça vient déclencher en fait du pouvoir d'agir chez chacun. Donc, c'est intéressant aussi. C'est des petits pas qui donnent vraiment des résultats important. Là, on en a fait une, oui, hier. Les gens étaient vraiment vraiment très contents, en fait. Vraiment très contents. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très simple qui s'est déroulé pendant une petite heure. Et ils ressortent avec j'ai envie de dire, du bonheur. Mmh. Une pratique communautaire.
Mmh. N'hésitez pas à poser des questions à nos collègues qui, vous avez vu, qui sont habités par leur projet. Hein.
Moi, j'en ai encore une. Alors là, on tombe sur ton sixième point, André, tout à l'heure. C'est, alors, vous dites ça démarre. La question du financement, donc d'un programme sans programme, quelque chose qui se fait chemin faisant, qui demande du temps pour établir de la confiance. J'imagine qu'on vous attend au tournant de l'expérimentation.
Oh là, oui.
Donc, comment vous vous débrouillez de ça? Comment vous gardez trace aussi pour faire valoir ces réussites dont tu parlais, Sébastien, là?
Tout ce qui est ce qu'on raconte là est écrit. Donc, il y a du récit, un peu tout ce qui... Voilà, tout. Et il y a même une par étape, c'est-à-dire qu'il y a la V1, la V2, la V3, donc la forge des compétences, on dit c'est une version bêta. Et on essaie des modes d'accompagnement, mais du coup, j'ai un discours. Alors, on est sur un appel à projet au départ, mobilisation, formation de la région Nouvelle-Aquitaine, et on est en... Comment je disais le terme, on est en repêchage en cours du PIC fabrique de remobilisation, donc par l'État, avec bien évidemment des taux de sortie positifs. ouais. Voilà. Bon, après, la région de Nouvelle-Aquitaine cherche des nouvelles expérimentations. Moi, mon discours, c'est attention de ne pas évaluer trop avant que l'action ne soit terminée. C'est un peu mon leitmotiv. Et le fait qu'on écrive tout, on a aussi de l'écriture, de récits, de prototypage, de modèles. Ça, c'est écrit un peu partout, de référentiels. Moi, j'aime beaucoup écrire en plus. Et on a aussi des outils de, je le dis, reporting de personnes, effectivement. Donc, deux petits tableaux Excel. Quand même, qui nous permettent de tracer le parcours du jeune. Ce qui est important aussi, c'est de se dire, on parlait tout à l'heure de porte à porte, on a quand même rencontré 200 personnes, quoi. Donc, c'est pas rien, et du coup, c'est du reporting qualitatif, parce que derrière, on y met effectivement toutes les qualités qu'on y va. Donc, effectivement, il y a oui, ils nous regardent, donc on invite des réunions partenariales un peu sur le même principe qu'on fait avec les personnes, avec des outils de co-développement. On invente un peu aussi des nouvelles réunions. Donc, on a des matinales tous les mois avec les partenaires qui veulent bien venir et les financeurs. qui veulent bien venir ou pas, quoi. Et on raconte. Voilà. Et oui, on sera à un moment donné, donc c'est juin prochain, la finalité pour la région en Nouvelle-Aquitaine. Mais ils sont très, très à l'écoute et très bienveillants, je trouve, par rapport à ce projet-là.
La région Nouvelle-Aquitaine, depuis plusieurs années, est très
impliquée Et un peu de feu la prescription, ils s'interrogent beaucoup sur ces modalités aussi, donc sur leurs propres modalités de dispositifs de formation pro. Enfin, ils font vraiment des beaux projets, quoi. Donc on fait partie de ces évaluations aussi, où ils nous ont permis de le faire, donc moi je trouve ça super aussi, quoi.
Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une contre-proposition d'indicateurs
Ouais, c'est ça.
Parce que je pense qu'il y a une vraie attendue de l'État lui-même, hein, qui est complètement...
Faire de la narration, quoi.
Ah oui, perturbé par le fait que les modes verticaux et beaucoup d'argent dans les dispositifs ne produisent pas de mobilisation du public et créent une désertification des dispositifs aujourd'hui. Donc je pense qu'il peut y avoir un attendu à la fois sur la pertinence de l'innovation, mais peut-être aussi sur la manière d'appréhender le processus. On n'est plus dans une logique verticale avec prédétermination, avec des indicateurs de performance. On est bien dans des indicateurs processuels. Donc, est-ce qu'on ne peut pas les qualifier? Est-ce que votre expérience ne pourrait pas permettre de le faire? Voilà, si vous avez besoin d'un coup de main.
Avec plaisir, oui. On en reparle. En effet. Bon, il y a matière de faire quoi, enfin, quelque chose. Hein.
Ça, c'est... Oui, et je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens qui seraient
il y a matière.
Sur n'importe quel dispositif, où tu es avec des collègues de mission locale pendant 2 jours, ils seraient à fond sur des choses comme ça, mais ils ont le sentiment qu'avec les contraintes de la DRIT aujourd'hui et des régions, ça va être compliqué. Donc faire
clair.
Processus.
Je confirme.
Tu confirmes.
Hein. Ah, je confirme. C'est pour ça que j'ai marqué, je vais quitter la Normandie, je vais aller descendre en Nouvelle-Aquitaine.
Ils ont une vidéo aussi, hein, donc c'est pas marrant non plus. Hein. Les tableaux Excel, ils sont partout. Hein, ça peut.
Bah oui.
Ouais, non, mais je sais bien.
Non, mais j'ai connu les dispositifs passés à Garantie Jeune avec tous les indicateurs d'évaluation derrière. Mais voilà, le taux de sortie positif, on peut le définir autrement.
Oui, puis on peut avoir des indicateurs. Enfin, Sébastien parlait à plusieurs reprises de mobilisation du pouvoir d'agir. Aujourd'hui, en fait, tout le monde s'en fout. En fait. Donc, ça veut dire, du coup, est-ce que ça se qualifie? Est-ce que ça se qualifie, mais de manière plus narrative? Donc, ça pourrait vraiment des questions qui pourraient intéresser la puissance publique, hein, à mon avis. Dans le contexte actuel. Voilà, je ferme la parenthèse, mais voilà, ça, c'est un vrai sujet pour moi, ça aussi. Même pour quelle loi, c'est-à-dire est-ce qu'on ne pourrait pas faire des propositions sur évaluer autrement les processus d'accompagnement aujourd'hui? Jusqu'à présent, on n'a pas produit des choses sur cette question-là. Je pense que ça devient un peu urgent, quoi. Autrement, l'apport qu'on peut avoir, c'est que les initiatives elles soient bridées en fait par les enjeux de reporting et de pérennité des organisations.
Peut-être voir dans les pays du Nord comment ils font.
Bah, ils n'ont pas de programme, ils ont. Voilà,
ouais, c'est ça.
Voilà, tu sais, nous on fabrique des normes et on fabrique des référentiels. Donc on est les premiers au monde. Donc, puis on fabrique des contrôleurs aussi, c'est ça. On peut laisser la parole à tous ceux qui veulent. Hein. On n'a pas prévu d'heure de fin, donc quand vous êtes épuisé, ben on s'arrête. Hein, mais
Ah oui, il y a une fille hein, dans le groupe. Il y a Alice qui est là. Il y a une médiatrice hein, qui est là, qui fait du porte-à-porte depuis. Qui a éprouvé hier d'ailleurs le rural. C'est vrai, elle racontait ce matin, ouah, c'était une épreuve. Elle a adoré, mais voilà, on va répartir un peu, mais oui, il y a une fille. Je pense que c'est bienvenu aussi pour tous les publics, quoi. Donc on est à parité maintenant.
Allez-y, chers collègues, si vous avez des choses, soit des propositions à faire, des expériences à partager, des interrogations, tout est ouvert.
C'est un super projet, quoi. Enfin, ça fait du bien. C'est... Pour un vendredi, finir comme ça, moi, je trouve que ça redonne du baume au cœur.
Ben, c'est bien,
c'est vraiment un très, très, très beau, très, très beau projet. Moi, ça me donne plein d'idées, mais non, c'est bien, quoi. Chapeau, quoi. Chapeau, chapeau. Beau projet.
C'est vrai qu'on parlait à l'instant en disant, à propos de la collègue, voilà, c'était éprouvant. C'est vrai qu'il y a un côté éprouvant. Essentiellement parce que c'est ce que je disais au début, c'est une approche sensorielle en fait. Quand on rentre en fait dans le domicile d'une personne, ou même quand on est sur le pas de la porte, il se passe quelque chose de différent. Et c'est vrai que ça demande à bien équilibrer son empathie, sa compassion, qui est le travail de chaque personne qui accompagne, hein, je le reconnais. Mais il y a cette immersion en fait à l'intérieur même de la vie de la personne. On n'est plus en face à face avec un bureau dans une structure. On est dans le couloir. Des fois, il faut enlever ses chaussures. On découvre derrière la personne qui nous demande de l'aide une autre personne qui a l'air d'en avoir encore plus besoin. Je pense voilà, à un monsieur qui s'appelle Serge et qui a sa femme qui est malade depuis une trentaine d'années et qui a l'air de souffrir là de plus en plus. Donc c'est voilà, il faut évoluer dans un environnement très intime, en se protégeant, en apportant des solutions. Enfin voilà, donc c'est vrai que ça peut être, c'est vrai que c'est bon. De toute façon, les accompagnements, c'est pas, enfin voilà, c'est éprouvant. Mais à domicile, il y a cette charge sensorielle qui arrive en plus.
Et du coup, vous avez eu une formation spécifique par rapport à ça, ou vous avez vous-même, enfin, comment est-ce que vous avez été recruté, enfin voilà, enfin que comment c'est construit
en co-working. le recrutement s'est fait en co-working.
D'accord. Mais du coup, sur voilà, effectivement, est-ce qu'il y a
on est tous, oui, il y a bon, il y a
leur montrer mon CV.
Ouais, j'ai presque envie
non,
de faire
non, mais
ça.
Ce que...
Non, non, c'est voilà, vraiment un nouveau métier. Donc, ouais. On est plus sur de l'engagement. Et puis, une facilité à la fois de... Alors, Samir est issu de l'éducation populaire, mmh. Sébastien aussi. Mmh. On navigue autour de ces publics-là, de facilité. Je crois qu'on sait... Ça n'a pas été facile, le recrutement. Mmh. Ça n'a pas été facile. Mais voilà, c'est un engagement, quoi. C'est quelque chose, je crois, c'est une rencontre. Là, pour le coup.
Mais du coup, il n'y a pas de formation en cours. Enfin, je veux dire, il y a des temps de vous débriefer, je suppose. Enfin, il y a des temps. Tout à l'heure, vous parliez de commission, effectivement, oui. De situation. Donc, je suppose que ce sont ces temps-là qui permettent effectivement d'échanger entre vous. Quand les situations sont difficiles, ouais, quand
ouais. Voilà. Ce qu'on appelle, on a ce qu'on appelle l'atelier,
c'est l'échange de pratiques.
Ouais, c'est ça. Mm. Échange de pratiques. On se nourrit de formations en visio de droite et de D'accord. gauche. On se dit ce qu'on a besoin. On est accompagné aussi par des professionnels. Et je crois que on a plutôt intérêt effectivement à se ressourcer avec ne pas rester dans notre entre-soi, mais vraiment d'aller se ressourcer auprès de professionnels pour que. Mais comme on est sur l'entraide aussi, on ne veut pas trop être expert. Ce n'est pas l'idée. On s'est dit non, on ne veut pas être compétent. Mais voilà, sur la ressource.
Justement, j'allais vous demander, moi, quels espaces vous aviez pour réguler et pour la supervision, comment vous faisiez ça entre vous. Et je me demandais si sur ce porte-à-porte, quand vous disiez tout à l'heure que vous reveniez le lendemain, est-ce que vous avez déjà imaginé ou est-ce que ça s'est déjà produit de revenir le lendemain, mais avec quelqu'un d'autre que vous, sur une question plus spécifique, sur un besoin plus spécifique que vous auriez identifié ? Un autre professionnel, je ne sais pas si c'est envisagé ou...
Ah oui, d'accord.
Sur le porteur de parole, vous avez vu des jeunes qui nous ont accompagnés mener l'action. Et en fait, c'est que on est aussi dans cette dynamique aussi de ne pas être que l'entre-soi, en fait, ce que disait Marilène, c'est-à-dire que ces jeunes-là aussi ben, participent aussi à des actions comme le porte-à-porte et, selon leur disponibilité. Et ça permet aussi donc, du coup, d'avoir aussi un autre regard, même pour nous et pour la personne aussi en face de nous. C'est-à-dire que c'est des jeunes aussi des fois ben, qui vont poser des questions à des adultes. Donc, nous, on est dans cette dynamique aussi de changer quand on dit le fait de bousculer nos façons de faire, c'est aussi laisser place et permettre à des plus jeunes aussi de prendre de la place, la place qu'ils le souhaitent aussi, pour aller questionner, poser des questions à des personnes qui ne connaissent pas. Donc il y a cette chance, j'ai envie de dire encore une fois, de pouvoir aussi avoir d'autres personnes qui nous accompagnent pour aller à la rencontre d'autres habitants.
Un peu comme un bouche à oreille aussi, parce que vous avez eu ça, des gens qui ont du coup fait venir d'autres personnes à vous, du fait que vous avez.
Oui, puis pour compléter, on s'appuie aussi sur les ressources du territoire, c'est-à-dire que nous, on a ce travail aussi d'orientation vers les structures existantes, vers ce qui existe, vers le travail qui est fait. Et on continue à faire ce travail de développement partenarial pour aller se présenter et puis profiter des ressources existantes pour après orienter. Et ça aussi, ça fonctionne bien.
Et l'intervention qui va arriver des membres du consortium, notamment sur du consortium des acteurs à la fois du territoire, mais des acteurs parties prenantes du projet, à venir animer aussi et faciliter des ateliers qu'ils auraient créés et dont ils sont plus ou moins experts. Et nous, on ne l'est pas. Donc, ils viendraient nous soutenir sur des besoins qui auraient été identifiés pour faire projet avec les... Aujourd'hui, on n'a pas de programme sur ce consortium, mais on attend effectivement que ce besoin vienne plutôt du territoire. Et à partir de là, je dirais le consortium est à notre service. Quoi. Okay. Voilà.
Merci. Et bravo.
Oui.
Merci.
Et du coup, vous avez aussi parfois des travailleurs sociaux qui vous interpellent en vous disant bah, ce serait bien si vous pouviez aller voir un tel, etc.
Pour le moment, on a eu la MDSI, on a eu un partenariat avec la MDSI qui, effectivement, avait déjà un projet de ce type-là. Ça me fait transition sur le fait quand même que la question du partenariat est une difficulté sur le territoire. Dans les vigilances, on se fait souvent, dans les débriefs qu'on a, on se fait un outil, le SWOT, qui nous permet d'avoir les opportunités, les menaces du projet, les difficultés et les réussites. Mais dans les vigilances, on a la question des partenaires qui nous disent « Mais qui vous êtes, vous ? Qu'est-ce que vous venez faire là ?» quoi. On a été, par exemple, obligé d'écrire à un maire d'une ville pour légitimer notre action, parce qu'il ne comprenait pas pourquoi, les acteurs du territoire. Voilà, des clubs de prévention, des acteurs sociaux qui sont là depuis des années, qui se disent « Mais pourquoi vous y arriverez ?» alors que voilà. Donc, des fois, on est un peu confronté à ça, et la question des partenariats, ouais, des acteurs qui sont déjà des médiateurs de ville, qui sont déjà sur le territoire. Bon, quand on vient en complémentarité, des fois, ils ne nous regardent pas forcément bien de suite. Voilà. On n'est pas vraiment dans le conflit, il n'y a pas de conflit, mais il y a une explication de texte, je pense, qui se fait doucement. Donc, là, les travailleurs sociaux, ils ne sont pas trop dans la rue, donc on ne les voit pas, mais on a quelques relations de sympathie.
Il y a peut-être des éducateurs de rue quand même, non ?
Voilà, on
voit les éducateurs de rue.
Oui, les éducateurs de rue, club de prévention. Ouais. Mais ce n'est pas les plus faciles. Hein.
Ouais. Mais non.
Et là, ce que vous disiez sur le fait que, par exemple, les éducateurs de rue... ils sont là depuis des années, ils ont aussi leur routine, leur façon de faire. Et là, en tout cas, pour l'instant, c'est pas dans leur... on ne nous a pas encore interpellés. Donc, on a aussi, comme disait Marilène, le fait de légitimer aussi notre présence, nos actions. Et souvent, ben, quand on rencontre des partenaires, nous, on se présente en disant que voilà, nous, on ne veut pas prendre la place d'eux, mais peut-être aller chercher les 2% des publics que vous n'arrivez pas encore à toucher ou à travailler ensemble. Et qu'on est là surtout ben, pour travailler avec des habitants et non pas se dire c'est nous des meilleurs. Loin de là.
Du coup, ça, c'est quand même un sacré point de vigilance, là, parce qu'il y a de la com à faire avant même de lancer un projet comme ça, quoi, parce qu'il peut y avoir ouais, tout un discours autour de votre action. Effectivement, vous êtes un peu sur les clubs de prêve, hein, vous pouvez être un peu sur des mêmes méthodes, c'est-à-dire être sur le terrain, etc. Donc,
La communication est faite. Après, c'est l'acceptation. Et comme c'est un projet, je dirais, éphémère au départ, on a pas le temps en fait, de raconter. Donc, on invite. Après, des fois, bah, il faut aller un peu réexpliquer. C'est assez nouveau, donc je pense qu'il faut ce temps-là, ce qui est complètement logique. Hein. Et en plus, c'est différent si on est sur un territoire urbain, ou à la limite sur un territoire urbain, on va nous dire on n'est jamais de trop sur ce territoire-là. Mais sur un territoire rural, très très rural, là par contre, on a plutôt intérêt à présenter effectivement toute la longueur du projet avec ses tenants et ses aboutissants. Quoi. Et ce qui est complètement logique. Hein. Mais voilà.
Bon. Ouais, ce qui est aussi lié à l'histoire de la construction des métiers en France. Hein.
Oui.
On s'est réparti le public jusqu'à présent avec ses spécificités professionnelles.
C'est mon champ d'implication. Enfin,
c'est chez moi, etc.
Oui, c'est ça. C'est chez moi.
Etc. Et là, le projet, il bouscule un peu des logiques, en gros, de part marché, quoi, tout simplement. Donc, c'est normal que ça frictionne un peu. Après, là, vous êtes centré sur le public. Donc, je pense, de toute façon, il y aura cohabitation de ces choses-là dans les années qui viennent, parce qu'on n'arrivera pas à... on a bien vu ce que ça a produit, la répartition des rôles en termes de non-recours droit. Donc, tenter autre chose, ça me paraît plutôt légitime et respectable.
Oui, puis en effet, dès lors qu'on est au service d'un public, voilà, le débat est clos. Quoi.
Le débat est clos, oui. C'est-à-dire... Bon. Oui.
Je voulais vous poser une question, parce que tout à l'heure, c'était intéressant, quand vous parliez des jeunes, ce travail d'apprendre les uns des autres... et du coup, là, quand on entend parler des professionnels, on se dit qu'en fait, les uns et les autres devraient apprendre, justement, en parlant d'expérience ou autour d'une expérience, et pouvoir discuter d'un cas. Et ça, c'est quelque chose qui n'a jamais pu être mis en place, hein, pour pouvoir travailler ensemble, justement, de pouvoir aborder une situation et puis faire en sorte que les uns apprennent les uns des autres, quoi. Enfin, s'enrichir, en fait. C'est assez étonnant, en fait.
C'est la notion du co-accompagnant, c'est ça, hein, par rapport à... Oui,
oui, en fait, donc, moi, je pensais là tout à l'heure, moi, je pensais à la notion de co-développement, en fait, les autres. Ce que vous faites avec les jeunes, en fait, c'est assez étonnant de se dire que ça... Et vous le disiez tout à l'heure, ça marche très bien, que les uns et les autres se rendent compte que le fait d'apporter une expérience que lui-même a vécue ou apporter des réponses à une question d'un autre jeune, bah, c'est très riche. Et là, entre les professionnels, il pourrait presque y avoir la même chose, et ça porterait ses fruits, en fait, que vous appreniez les uns des autres, plutôt qu'il y ait ces questions de territoire ou de position. Mais bon, est-ce que ça n'a jamais pu
ça se tente, là, c'est en tentative, et ça va se faire, si. Ça va se faire avec le temps. Comme dirait André, à un moment donné, on n'aura pas que le choix que ça se fasse.
Oui.
Qu'on en est encore au stade des présentations.
Oui, voilà.
On est
là, on fait jeune, du...
Finalement, ouais. C'est ce qu'on propose. Parce que c'est vrai que c'est comme le...
Ce matin, on dansait.
Le porte-à-porte sur l'humilité, on est sur cette posture-là. Donc on essaie de déjouer les jeux d'acteurs et les égaux et les concurrences et de venir se positionner. C'est pas simple, mais c'est ce qu'on propose. Donc, j'imagine que d'ici quelques temps, on pourra peut-être arriver à créer des commissions comme il en existe de situations, mais
Multipartenaire.
Oui, voilà, multipartenaire. Oui. Ça pourrait être vraiment intéressant, je suis d'accord.
Oui, c'est l'idée, oui.
On a toujours à s'enrichir et des nouvelles pratiques, surtout. Mais des fois, ça peut brusquer, surtout sur ce... C'est vrai, on l'a déjà ressenti, on nous l'a même déjà verbalisé très clairement. On fait le taf. Enfin, non, non, c'est bon, on a besoin de personne. Nous, sur le territoire, il y a déjà ça, 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 ça. D'accord. Donc, voilà, je pense qu'il y a une... Puis quelque part, je le comprends aussi. Hein. C'est un travail au long cours de mettre en place des accompagnements sur un territoire, de développer des coopérations. Et puis, tout d'un coup, il y a deux gars qui arrivent là sur un projet qu'on ne connaît pas. Et puis, ils nous proposent... Oh, attends, qu'est-ce qu'ils vont déséquilibrer, eux? Comment ils vont nous déstabiliser? C'est marrant qu'on voit d'abord, d'ailleurs, cette... Plutôt que de dire, tiens, qu'est-ce qu'ils vont m'apporter de nouveau, on voit tout de suite le... Voilà, qu'est-ce qu'ils veulent, au fond.
Cette zone de confort aussi, cette routine de se dire, bon, ben, moi, ça fonctionne comme ça, et que ben, ça va m'obliger aussi à me remettre peut-être en question, savoir ben, où est-ce que j'en suis. Cette façon de se dire, bon, ben, ce sont mes habitants. Y a pas de donc je fonctionne comme ça parce que c'est mon territoire. Donc de notre présence, je pense que ça amène aussi à se poser des questions, mais peut-être voir quelles questions on se pose. Est-ce que ce sont les bonnes questions? Je ne sais pas.
En tout cas, moi à leur place, je ferais pareil. Hein. On est, oui, c'est vrai, c'est ce que dit Samir, on est tous sur notre zone de confort, on est tous traversés par nos contradictions et ça serait bien qu'on arrive à bouger en tant que professionnel sur ces postures-là aussi, c'est-à-dire vraiment d'arriver à faire collectif, mais bon, enfin, après, c'est plus complexe que ça, hein. Il y a les financements. Le problème de la coopération, c'est la concurrence.
Mais ça soulève une vraie question, en fait.
Oui.
Oui. Qui paraît essentiel là-dedans. Enfin, voilà. Mais bon.
C'est vrai.
Bon, après, il n'y a pas que la concurrence ou la notion. Je pense qu'il y a eu beaucoup aussi, pour le vivre en mission locale, hein, il y a aussi beaucoup d'acteurs qui ont profité de la manne financière dans le cadre du PIC. Et on voit des projets parfois qui quand même n'ont pas forcément de sens sur le territoire ou qui sont quand même redondants aussi parfois avec ce qui existe. De l'extérieur, le vôtre n'a pas l'air d'être comme ça, mais c'est vrai que voilà, on le sait bien, il y a beaucoup de gens qui se positionnent sur l'insertion, sur l'accompagnement, pas dans des fins non plus forcément très bienveillantes et voilà par opportunité parce que parfois aussi il faut faire vivre une structure hein, et qui développe des projets après c'est quand même pénible à vivre au quotidien quoi. Donc, voilà.
Oui, c'est vrai.
C'est pas que la notion effectivement d'appartenance et de concurrence. Et puis ça va au-delà de ça quoi.
L'ambition du projet de la Forge, il a l'ambition d'être un ensemble lié. C'est André, tu parlais de rhizome. Voilà, ça me ressort, ça, l'histoire du rhizome.
Et là, il y a la question de l'interconnexion.
Ouais. Et seul, on n'existe pas. Je disais encore ce matin, on n'est rien, quoi.
C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui est potentiellement disruptif, en fait. C'est-à-dire qu'au fond, on sort des logiques verticales, de dispositifs prédéterminés, de répartition des acteurs, pour plutôt penser de la connectique, de l'élargissement de proximité et la capacité à finalement à essaimer tranquillement. Quoi. Et donc, du coup, on ne sait pas
mieux
bon pour les gens. Hein. Donc, c'est quelque chose qui est...
On a en plus.
Oui. Qui va être compliqué, quoi. Et du coup, c'est peut-être tout ça l'intérêt du projet, c'est sa capacité de penser les dispositifs d'accompagnement des personnes, quoi. Il est 18h18, chers collègues, donc si vous voulez poser des questions, c'est le moment ou jamais, ou intervenir.
Moi, je vais bien reposer une question. Je me demandais si déjà vous aviez posé des limites à l'accompagnement que vous faites, hein, et je pensais plus spécifiquement au porte-à-porte. Alors, quand je dis limite, c'est bon, voilà, parce qu'il y a tout à l'heure, on parlait de souffrance. Je me dis que vous pouvez être confronté à des personnes qui sont dans une souffrance psychique ou d'autres types ou de la maladie mentale. Ou voilà, est-ce que vous avez posé des limites quand... Et puis, du coup, derrière, il y avait la question aussi de quelles sont vos limites à vous. Est-ce que ça aussi, alors j'ai bien compris, hein, que vous en parliez entre vous et que ces moments étaient essentiels. Hein. Mais est-ce que du coup, vous avez pu aussi poser vos limites? Voilà, c'était un peu sur le, enfin, à la fois le cadre que vous avez posé dans le cadre de cette mission et puis vos limites propres, en fait.
Merci. Bérangère.
Sur les limites de l'action, elles sont, je pense, assez communes et collectives, en fait, dans le sens où on en discutait tout à l'heure. Alors, on a malheureusement pas la solution à toutes les demandes. Mmh. Le problème étant, je vais le dire comme ça, c'est peut-être pas assez nuancé, mais le problème étant que peut-être que la question du porte-à-porte, ça enclenche une relation peut-être différente, peut-être plus rapidement liante, et le fait de qui déclenche chez la personne une attente, en fait, peut-être plus importante, parce que c'est pas elle qui s'est déplacée quelque part pour faire une demande, c'est nous qui sommes venus leur demander s'ils avaient une demande. Et par exemple, voilà, la question du logement. Moi, ça fait un an et demi que je cherche un logement parce que là, ici, ça me coûte trop cher et j'ai bientôt plus d'allocation chômage, etc. On ne va pas avoir de réponse tout de suite. On peut travailler la question, mais on ne va pas avoir de réponse tout de suite. Et là, on sent que oui, c'est une limite connue, commune, collective à tous ceux qui accompagnent, c'est qu'on n'a pas toujours les réponses, en fait, pour les personnes. Le fait est que le porte-à-porte entraîne une relation peut-être plus importante tout de suite. Et donc, ça, bah peut-être que là, ça vient parler des limites de chacun. En tout cas, par exemple, voilà. Moi, ça vient toucher à quelque chose d'un peu plus difficile dans la relation d'accompagnement, en fait, parce que bah, peut-être ça entraîne une frustration, peut-être plus importante que si c'était la personne qui était venue quelque part. C'est mince. Je me suis déplacé chez elle et j'ai pas forcément de réponse pour le moment. Pour répondre aux deux questions des limites.
C'est là où c'est important, effectivement. Ce que dit Sébastien, c'est une fois qu'on en a parlé, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de cette limite de nous en tant que posture et en tant que métier? Qu'est-ce qu'on décide? Qu'est-ce qu'on décide pour cette situation-là ou pour ce professionnel-là? Donc, c'est là où c'est important d'en discuter, peut-être même d'aller vers de la formation. Donc, cette question que vous posez, elle est essentielle. Si on veut, nous, poursuivre sur des actes métiers comme cela. Et c'est peut-être là où certains se sont cassés la figure, finalement, parce que ça n'a pas été assez entendu ou assez écouté, ces difficultés-là, et les sensibilités qu'on a les uns les autres, quoi. Effectivement, l'accompagnement derrière une table est peut-être moins oppressant que voilà, la personne derrière la porte, elle n'a rien demandé, mais quand elle demande quelque chose, elle ne l'a pas, quoi. Mince. Donc bon, qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc là, ça date de effectivement là. Hein, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on en fait? Et donc on fabrique entre nous aussi des solutions. C'est en cours.
Et ça Merci. Sera, ça sera permanent, en fait. Hein,
c'est tout
modèle,
le temps.
Le modèle
il s'accepte.
Il pose la question de la plasticité, en fait, ces limites-là qui sont pas normables, en fait. Donc ça me paraît ça peut être que mis en délibération quasiment permanente, quoi. Voilà, chaque situation nous amène à réinterroger tout ça,
mais c'est important
Oui, c'est essentiel, mais tu es obligé de trouver plutôt des modalités de régulation de ce truc-là plutôt que des modes normatifs où les limites seraient prédéterminées. Donc,
Ah
c'est ça l'enjeu. Peut-être ça l'enjeu, peut-être c'est même des dispositifs comme ça ne peuvent fonctionner que s'ils ont des dispositifs de régulation en fait permanents. 10h20, 18h23, chers collègues.
Oh non, on pourrait parler toute la nuit. Hein,
oui, oui, je sais bien. Donc là, moi, je voudrais respecter. Vous avez, ouais. Ouais, beaucoup, vous avez du temps à la fois pour préparer et pour. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être que je vais vous proposer de. Alors, techniquement, ce qu'on va faire avec. C'est je vais faire un article pour EPAL, donc j'en ai convenu avec Marilène et puis je lui soumettrai à la lecture, elle fera lire voilà et puis on le diffusera assez vite sur le site, hein, on le publiera sur la plateforme EPAL, donc du coup il sera traduit en anglais, enfin ça vous fera plein de publicité, c'est bien. Voilà. Merci à tous les collègues. J'ai enregistré une grande partie donc qui sera podcastée, hein, donc parce que c'est plus simple techniquement. Et puis peut-être que je peux dire trois mots pour la fin, si vous voulez, pas quelques éléments un peu voilà, comme j'ai dit, quelques mots à l'entrée, je vais dire quelques mots à la sortie, comme ça. Puis remercier tous les participants voilà, d'être encore avec nous un vendredi soir à 18h30. Voilà, donc ça veut dire quand même que c'était chouette. Voilà. Merci de terminer la semaine avec ça. Alors, je voulais juste dire quelques mots parce que c'est un peu ce qui va organiser peut-être l'article que je vais essayer de rédiger. Il me semble qu'il y a vraiment quelque chose autour de la rencontre dans ce que vous proposez et comment on essaye d'avoir une rencontre finalement de proximité dans laquelle les gens n'ont pas à se déplacer. Et du coup, la question du hors les murs, elle pose vraiment toute cette question de la rencontre. Puis une deuxième question qui me paraît très importante, c'est la dimension de la distance en fait. Comment la distance, c'est se rapprocher, c'est la question de l'approche, c'est la question de trouver la juste distance. Et cette distance-là, elle est pas prédéterminée puisqu'elle est nécessairement occasionnelle parce que notamment il y a du porte-à-porte. Ça, je trouve ça très intéressant, l'idée d'une distance qu'il faudrait quasiment fabriquer chaque fois dans un enjeu qui n'est pas institutionnel, mais plutôt occasionnel. Donc le troisième point qui me paraît vraiment essentiel, c'est que quelque part, vous ouvrez des possibles. En ouvrant un espace transactionnel, en fait, il y a des transactions possibles de la personne avec elle-même et de la personne avec son environnement qui, du coup, commencent à tisser des choses possibles qui n'étaient pas imaginées comme possibles. Et ça me paraît vraiment très, très intéressant. C'est quoi les conditions subtiles que vous mettez en œuvre pour que quelque chose qui était finalement même pas imaginable, même pas imaginé, puisse à un moment donné être perçu comme utile, ce que j'appelle, moi, fabriquer de la zone transactionnelle, c'est-à-dire que, globalement, bah en fait, et c'est le quatrième point, vous vous intéressez aux conditions facilitantes. Comment quelque chose qui a pu émerger de votre rencontre avec les personnes peut à un moment donné pousser, hein, pousser. Il y a quelque chose de l'ordre de la fertilisation, il me semble, dans ce que vous faites. Hein, permaculture pourrait nous intéresser. Enfin, il y a plein de modèles, permaculture, rhizome, qui peuvent être très intéressants en termes de modélisation. Puis un élément que je trouve vraiment très important, parce que Sébastien l'a dit tout à l'heure, c'est à quel point ça peut produire de la considération des personnes vis-à-vis d'elles-mêmes, notamment quand elles font la découverte qu'elles peuvent être ressources. Sébastien, tu l'as dit, ça, et c'est vraiment quelque chose qui nous préoccupe beaucoup, c'est-à-dire se sentir considéré comme ayant de la valeur. Se sentir considéré comme ayant de la valeur. Or, beaucoup de dispositifs verticaux aujourd'hui sont plus préoccupés par la question des freins que par la question des ressources. Et il me semble, tu l'as dit à plusieurs reprises d'une certaine façon, penser le pouvoir d'agir, c'est penser que les personnes ont des ressources, mais qu'elles se sont d'une certaine façon inconnues à elles-mêmes. Et que peut-être ce qui est vraiment la vertu du projet, c'est faire pousser ça, c'est-à-dire comment je peux me reconnaître moi-même comme ayant de la valeur. Puis un dernier point que je trouve vraiment, j'aurais envie de dire, vous êtes en train de fabriquer des réseaux de connivence, en fait. Et c'est pas que de la connexion, c'est de la connivence. Et du coup, ça repose la question du co-développement et de se sentir appartenir à quelque chose qui est plus important que soi. Et en regardant les photos sur la place, là, je me dis, là, vraiment, il y a quelque chose de très chouette qui se fabrique, justement parce que c'est éphémère et justement parce que c'est un espace public. Et ça, sortir des personnes pour leur permettre de reprendre la parole dans des espaces publics alors même qu'elles peuvent se sentir complètement désaffiliées, ça me paraît vraiment très très chouette. En tout cas, merci beaucoup pour ce beau projet. Merci à tous les collègues qui ont participé à tout ça. Et puis on se retrouve. Merci Marilène, peut-être Sébastien, peut-être Samir, peut-être vous avez à en dire un dernier mot. Peut-être il est dit. Il nous reste 2 minutes encore.
Non, bon, merci, c'est chouette de pouvoir raconter déjà, de pouvoir être dans du récit sur un projet sur lequel au départ on se dit waouh, personne ne comprend rien en fait. Là, je vois que finalement, ça se comprend. Ça se comprend. Et c'est vraiment chouette de pouvoir dire ça, ouais, c'est cool, quoi. Enfin, y a quelque chose de. Voilà, ça se comprend, il y a des conditions, il y a une offre. Et d'accepter de faire ce pas de côté, moi j'en suis ravie. Et, merci Sébastien, Samir, d'avoir illustré
ouais,
avec émotion aussi ce projet.
Il y avait de la vie, c'est bien.
Ouais, c'est bien animé tout ça. C'est chouette.
Merci beaucoup, passez une excellente soirée. Merci, merci.
Merci beaucoup. Merci
Sébastien, merci Samir. Salut Catherine.
Salut André, à bientôt.
Salut André.
Au revoir.
Merci à tous.
Au revoir.
Bon week-end.
Bon week-end.
Au revoir Bérangère, au plaisir de te retrouver tous les jours. Ciao, ciao.
Au revoir.
C'est bien de te voir en fait, hein, même à distance.
C'est gentil.
Ça manque, ça manque.
Ouais.
À bientôt tous, à bientôt toutes. Ciao.